Bonjour à tous et merci de votre fidélité. Portrait d'Isère, notre invitée aujourd'hui, la romancière iséroise Carole Declerc. Agrégée de lettres et de langues anciennes, Carole Declerc enseigne le français dans un collège du Nord-Isère. Par ailleurs passionnée par l'histoire, elle a été rattrapée par ses deux passions à travers l'écriture d'un premier roman, Ce qui ne nous tue pas, publié chez Terra Nova. Une histoire d'amour pendant l'occupation allemande en 1944. Et c'est encore l'histoire, en l'occurrence celle de Vienne dans les années 1920-1930. Et une autre passion, celle pour la musique, qui va déclencher l'écriture de son second roman. Roman qui sortira en septembre prochain. Avec une plume à la fois délicate et à fleur de peau, elles sont des tréfonds de l'âme humaine en bousculant nos certitudes.
Les portraits de l'Isère, Michel Caron.
Carole Declerc, bonjour.
Bonjour.
Grand plaisir de vous recevoir.
Je suis heureuse de vous
voir en direct dans cette émission. Oui, enfin, puisque on s'est vu par téléphone. Mm-hmm. C'est vrai que j'avais chroniqué votre livre « Ce qui ne nous tue pas », qui est un livre qui m'a vraiment bouleversée. Je suis sincère, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Qui a bouleversé d'ailleurs pas mal d'auditeurs. Encore la preuve ce matin, une auditrice nous a appelé. Ce titre, « Ce qui ne nous tue pas », c'est un clin d'œil, bien sûr, à la célèbre affirmation de Nietzsche selon laquelle « Ce qui ne nous tue pas » rend plus fort, ce qui ne tue pas rend plus fort, pour être précise, idée selon laquelle d'ailleurs des épreuves peuvent être salvatrices, des épreuves, l'héroïne de votre roman, Marianne, va en traverser un certain nombre. Alors, racontez-nous la trame de ce roman, Carole Declerc.
Alors, tout part d'un réseau de résistants. On est en février 1944 et mes trois résistants, je les ai vus de façon un peu humoristique, ce sont des pieds nickelés, en quelque sorte, oui, des pieds nickelés. Je les ai vraiment imaginés comme ça, ou trois fées, en quelque sorte, qui vont se pencher sur le berceau de ma Marianne, qui est mon héroïne, et ce prénom n'a pas été choisi par hasard.
Elle incarne un petit peu la France.
Elle incarne un peu la France, oui, c'est une patriote, un peu fêlée quand même. Un peu fêlée. Et ces trois résistants sont dans un appartement, ils visionnent des diapositives, et sur ces diapositives, il y a un jeune homme absolument craquant, gros problème, il a toutes les qualités, mais il est allemand, et en février 44...
Quelle idée.
Non, il ne fait pas bon être allemand. Et ces résistants... on remarquait que cet officier allemand qui appartient à l'Abwehr et au réseau de contre-espionnage agite quand même pas mal les esprits. Vraisemblablement, il est important. Il a une mission. C'est un analyste des installations militaires. Il est anglophone à la perfection, francophone. Bref, il se trame quelque chose autour de Maximilian von Vreden.
Arceau.
Et voilà, arceau. Et on va lui coller une nana dans les pattes.
Ben oui, parce qu'il aime beaucoup les femmes, hein, cet homme-là.
Il aime les femmes.
Les brunes, la peau blanche.
Les brunes à la peau blanche, comme beaucoup d'Allemands. Elles étaient très exotiques, les dames. Hein, si bien qu'il y a eu une recrudescence de couleurs chez les coiffeurs, véridique. Il aime les brunes, mais il ne s'attache pas. C'est un osseur. Il est depuis 8 mois à Paris. Et il prend du plaisir, comme beaucoup d'officiers.
Avec les femmes dans les cabarets.
Avec les femmes dans les cabarets, voilà. Il fait la noce, comme on dit, avec son bon ami Ulrich. Voilà. Donc ces trois résistants se disent qu'il faut lui en coller une qui entre dans ses petits papiers, qui soit suffisamment finaude, intelligente pour s'en faire, allez, on va le dire, aimer, de manière à passer un peu plus de temps à ses côtés, faire du renseignement. Et ils en sont là quand arrive Sénèque. Alors Sénèque, évidemment, c'est un
ça
nom
n'est
de,
pas le
de
philosophe,
code.
Hein, oui.
Voilà, le philosophe. Non, ce n'est pas le philosophe. C'est un jeune homme de 26 ans, un jeune homme de très bonne famille qui fait partie des jeunesses combattantes catholiques. Et ce jeune homme vient au rendez-vous parce que les mouvements se regroupent un peu. Hein. Il y a eu évidemment un ordre de plus haut. Et ce jeune homme est accompagné de sa petite sœur.
Ah, voilà. La jolie Marianne.
La jolie Marianne.
Et devinez ce qui va se passer. Mais on va demander à Marianne d'aller voir d'un peu plus près ce bel officier.
Voilà. Voilà.
Et ça va donner une belle histoire d'amour avec plein d'intrigues. Bien sûr, on va revenir un petit peu sur ce livre, sur vos personnages, sur ce qui vous a décidé à évoquer cette période de la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi? Et puis voir des réactions qu'ont suscité ce livre qui a fait pas mal de bruit pour un premier roman. Vous restez avec nous, Carole Declerc. On vous retrouve juste après. Véronique Sanson, chanson sur ma drôle de vie.
Je fais ce que j'ai envie, je t'emmène faire le tour. tour de ma drôle de vie. Je te verrai tous les jours. Si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras? Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras? Si je sais que tu m'aimes, la vie que tu aimes au fond de moi me donne tous ces emblèmes, me touche quand même. Laisse les autres te t'aiment, tes drôles de poèmes, et viens avec moi. On est partis tous les deux pour une drôle de vie. On est toujours amoureux et on fait ce qu'on a envie. Tu as sûrement fait le tour de ma drôle de vie. Je te demanderai toujours. Et si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras? Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras? Si je sais que tu m'aimes, la vie que tu aimes au fond de moi me donne tous ses emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Les autres t'aiment, tes drôles de poèmes, et viens avec moi. Et si je sais que tu m'aimes, la vie que tu aimes au fond de moi me donne tous ses emblèmes, quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres te t'aiment, c'est drôle de poème, et viens avec moi.
Sur ma drôle de vie, Véronique Sanson, très bon début d'après-midi sur France Bleu Isère.
Jusqu'à 14h, les portraits de l'Isère.
Et c'est une drôle de vie que vivait votre personnage, votre héroïne Marianne Carole de Clerc dans ce roman « Ce qui ne nous tue pas » publié chez Terra Nova, un premier roman qui a rencontré un franc succès puisque vous avez vendu à ce jour plus de 3500 exemplaires. C'est assez rare pour un premier roman, ça tourne en général autour des 700 pour vous dire que vous pouvez aller l'acheter ce bouquin et le lire pendant l'été. C'est un très bon livre d'été, on rappelle que c'est l'histoire, une histoire d'amour entre un officier des renseignements allemands et une résistante, une jeune résistante, une belle résistante qui s'appelle Marianne. Ça se passe en février 44 à Paris. Et donc, pourquoi cet intérêt? Alors, on sait, je disais que vous étiez intéressée par l'histoire avec un grand H en général, en particulier le XXe siècle. Et pourquoi cette période de la Seconde Guerre mondiale, Carole de Clerc?
Alors, pourquoi de façon plus large le XXe siècle? Et donc la Seconde Guerre mondiale, parce que c'est un siècle de fractures. Voilà, c'est très riche en événements de toutes sortes et je trouve que les comportements humains se révèlent à ce moment-là et c'est ce qui m'intéresse le plus.
Alors, ça c'est pour le XXe siècle, c'est pour les fractures et je pense qu'il y a une grand-mère qui est derrière tout ça aussi.
Oui. Effectivement, une grand-mère. Il y a souvent une grand-mère, oui. Hein, derrière notre, on va dire, la formation des êtres humains. Et en l'occurrence, ma grand-mère m'a beaucoup, beaucoup parlé de ce qu'elle a vécu durant la Seconde Guerre mondiale. C'était une jeune adulte, elle s'est mariée, elle a eu son premier enfant en 43. Et j'ai encore en tête vraiment, de façon très précise, hein, très prégnante, les récits de sa vie quotidienne. Le matin, on se levait, la préoccupation principale était de se chauffer, on avait froid dans les maisons, le charbon coûtait une fortune, il fallait manger, elle habitait dans le nord de la France, donc le nord dépendait du gouvernement de Bruxelles et non de Paris, c'est un département qui était destiné à être intégré au Reich, donc peut-être encore plus dur, hein, au niveau des conditions d'occupation que le gouvernement de Paris. Voilà. Donc tout ça a constitué un tout qui m'a formée. Il en est resté quelque chose. Il a fallu que ça sorte à 45 ans.
Alors c'est sorti qui aussi. Oui, ça sort jusqu'au bout. Hein. C'est ce qui est le plus important. C'est bien l'intérêt de la vie. Il y a un documentaire qui vous a marqué, qui a peut-être déclenché l'écriture de ce roman, Carole de Clerc.
Oui. Il y a deux ans, je ne sais plus exactement comment s'est passée la genèse, mais je regarde énormément tout ce qui peut passer à la télévision sur la Seconde Guerre mondiale. Et il y a deux ans, j'ai vu un documentaire sur les femmes dans la résistance. C'est un thème qui m'intéresse vraiment beaucoup. Je trouve qu'on en parle peu, hein, très peu de femmes, hein, reconnues compagnons de la libération. Voilà.
Sur à peu près 1050.
Oui, il me semble. Voilà, je n'ai plus les chiffres exacts, mais c'est anecdotique, c'est scandaleux. Et on a mis en avant des figures telles que Lucie Aubrac, alors que tant de femmes avaient été résistantes. Et ce documentaire parlait des femmes qui avaient combattu l'arme au poing, des femmes qui faisaient fonctionner les stencils dans les caves, qui s'occupaient du secrétariat. Il était un peu plus allusif, je dirais, sur les femmes qui sont allées au charbon physiquement, qui sont allées au contact des officiers allemands pour faire du renseignement. Il y en a eu. Et j'ai estimé que cet aspect n'avait pas été suffisamment expliqué. J'ai donc creusé et je suis tombée sur une masse d'informations. Ça m'a beaucoup intéressée. J'ai voulu en faire quelque chose. Et je me suis dit, pourquoi ne pas appliquer l'histoire éternelle, magnifique, de Roméo et Juliette, à cette masse d'informations historiques que j'avais sous le coude.
Alors, petite parenthèse très rapide, un hommage à Benoît de Groot, hein, qui nous a quitté cette grande femme féministe.
Qui avait 16-17 durant la guerre, toute jeune fille, qui a tenu un journal, et j'ai lu des extraits du journal de Benoît. Ouais.
Alors, vos personnages, vous les avez créés, peut-être à partir de toute la documentation que vous avez ramassée, que vous avez digérée, et notamment donc, cette Marianne, qui est une jeune femme, jolie jeune femme, étudiante en philosophie.
Oui, effectivement. Alors, étudiante en philosophie, mais c'est un leurre. Hein. On lui a fabriqué une identité, on a peaufiné, carte d'étudiante, un tuteur à la Sorbonne.
Oui, donc elle doit jouer l'étudiante en philosophie, je dis délicat quand même.
Hein. Oui, effectivement. Jeu très délicat, mais elle ne se sent pas surveillée, parce que dès le départ, il y a, avec Maximilian von Vreden, cet officier qu'elle doit surveiller, il y a une complicité qui s'installe. Donc elle se sent plutôt à l'aise avec lui. Bon, on pourrait dire qu'il se plaise tout de suite. Hein, c'est un coup de foudre. Alors surtout pour lui, au départ, un peu moins pour Marianne, parce que Marianne, et je pense que c'est comme cela qu'il faut résumer ce roman, Marianne est face à des atermoiements psychologiques absolument terribles. Bah, c'est une patriote, elle aime son pays, elle a une histoire familiale très compliquée aussi, qu'elle n'a pas digérée, elle est toute jeune, elle a 21 ans, et voilà qu'on lui colle dans les pattes cet Olubrius absolument charmant.
Alors évidemment,
faire de tout cela.
On ne dira pas la fin, mais c'est un très très beau roman, suspense jusqu'au bout. Donc une histoire d'amour impossible, la vivront-elles ou pas, on ne le dira pas. Et puis des personnages, je pense à Nini, qui est cette femme qui va l'aider à entrer dans le jeu des séductrices, parce qu'elle connaît bien les cabarets aussi.
Voilà, c'est son coach. Hein. Marianne est une empotée, elle n'a pas vraiment connu de garçon, hein, une expérience un peu désagréable, tout au plus, et il va falloir la former. Elle est censée avoir fréquenté les milieux interlopes, des cabarets parisiens, et on va la coller dans les pattes d'une résistante de la première heure, pour le coup. C'est bien de le rappeler parce que son sort sera terrible. Voilà. C'est Nini, c'est Jeannine Martel, hein, c'est ma jeune fille à la bicyclette bleue, si je puis faire ce petit clin d'œil à Régine Desforges, évidemment. Nini va la former. Et Nini, qui était au départ un personnage vraiment secondaire, a pris de l'ampleur. J'ai réécrit, j'ai ajouté 80 pages entre la version initiale et la version que j'ai livrée à mon éditeur.
Oui, c'est l'occasion justement de rappeler le comportement peu scrupuleux des résistants, cette fois de la dernière heure, avec des scènes terribles sur ces femmes qu'on disait ces femmes de gauche.
Voilà, à deux reprises, effectivement. J'ai ressenti le besoin d'exprimer tout ce que j'avais sur le cœur à propos de l'épuration et du renversement de rôle de dernière minute de certaines personnes, collaborateurs, effectivement, qui se sont fait passer pour des résistants et qui étaient sans doute les plus acharnés à punir ces pauvres femmes.
Pour dire qu'il y a des scènes qui sont très très fortes dans ce livre. Et puis il y a d'ailleurs un fils de Bosch, comme il se nomme lui-même, qui a lu votre livre et qui vous a interpellé, qui vous a rendu hommage, un très bel hommage, me disiez-vous. Vous ne bougez pas, Carole de Clerc, le temps passe vite. On va passer au second roman, si vous le voulez bien. On va aller à Vienne dans les
Avec
années
plaisir.
20, années 30. D'ici une minute sur France Bleu.
France Bleu. Sélection événements.
Isère. France Bleu Isère a sélectionné pour vous le Grand Duc Ultra Trail de Chartreuse, les 25 et 26 juin à Saint-Hilaire-du-Touvet. L'occasion de découvrir le massif de la Chartreuse en courant, en solo ou en relais sur 80 ou 43 km. France Bleu Isère. Portrait d'Isère, notre invitée aujourd'hui, la romancière Carole Declercq. On vient d'évoquer votre roman, votre premier roman, Ce qui ne nous tue pas, publié chez Terra Nova. Je vous le recommande pour cet été. Vous allez publier, il est écrit, il est fait, il est chez l'imprimeur. Un second roman inspiré toujours de votre passion pour l'histoire avec un grand H, mais aussi pour la musique, parce qu'il faut savoir que vous êtes aussi musicienne, Carole Declercq.
Je fus musicienne. On oublie tout, malheureusement, mais oui, effectivement, j'ai eu cette chance de pouvoir faire du piano quand j'étais plus jeune, enfant et adolescente. J'ai arrêté, si mes souvenirs sont bons, lorsque j'étais en licence de lettres. J'avais 19 ans parce que c'était trop lourd, hein, c'était trop.
La licence de lettres, voilà. À 19 ans, élève surdouée, étudiante surdouée?
Bonne élève. Sérieuse. Très sérieuse.
Elle est restée sérieuse, mais ça ne l'empêche pas d'écrire des choses un petit peu coquines aussi. Alors, la trame de ce nouveau roman inspiré donc de l'histoire et de la musique, puisque la musique est le personnage principal, ça se passe à Vienne dans les années 1920-1930.
Alors, plus précisément, l'histoire commence en 1995. Voilà, j'aurais pu tout aussi bien la situer en 2015. 1995, c'est pour la cohérence dans l'âge d'un personnage qui est très important, qui est le vieux musicien. Mais effectivement, il y a des bonds en arrière et deux périodes vont ressortir. Les années 20-30 à Vienne, en Autriche, c'est une période qu'on a appelée Vienne la Rouge, parce que la ville était aux mains du Parti Social-Démocrate. Donc, qui œuvrait évidemment pour apporter du confort aux ouvriers, hein, au prolétariat. Et pour ce qui est de la deuxième période historique, c'est l'Anschluss, c'est-à-dire l'annexion et l'occupation de l'Autriche par l'Allemagne. Voilà les deux périodes sur lesquelles je travaille. Donc vous voyez encore un goût très prononcé pour l'histoire de la Mitteleuropa, comme on dit. Parce que je pense qu'elle est à la base de l'histoire du XXe siècle, tout simplement. Voilà. Donc je pense que j'ai encore beaucoup de choses à dire à ce sujet.
Alors dans ce contexte, une jeune fille, donc si j'ai bien compris, qui est donc de 1995 quand débute l'histoire, hein, et on va être dans les souvenirs à travers la découverte de la vie d'un violoniste. Alors racontez-nous, cette jeune fille, elle est très malheureuse dans la vie, et il n'y a qu'une chose qui peut la sauver, c'est le violon.
C'est le violon.
Et en l'occurrence, un violoniste.
Voilà, tout à fait, c'est une violoniste virtuose. Elle est absolument écrasée par la personnalité de ses parents. Son père est un chef d'orchestre, sa maman est une soprane italienne très extravertie, capricieuse, médiatique. Et cette jeune fille a une peine de cœur, et ce qui la sauve, elle s'en rend compte très vite, c'est d'écouter des CD d'un violoniste autrichien très âgé qui vit encore à Vienne, c'est complètement retiré du monde, c'est un vieil ours en quelque sorte. Et elle demande à son père de faire fonctionner un petit peu, hein, voilà, les tirettes pour obtenir un rendez-vous avec ce vieil homme qui refuse d'abord, puis accepte de la recevoir. Elle ne sait pas pourquoi, elle s'y rend. Il accepte de devenir son professeur et il a une façon de faire qui n'est pas du tout académique. Elle va plonger dans le passé de ce vieil homme. Elle va se rendre compte qu'il y a au milieu de ces superbes violons, Stradivarius, Guarnerius, j'en passe et des meilleurs, un petit violon tout triste, tout simple, tout modeste, presque laid. Elle va s'intéresser à ce violon et au contenu de l'étui et va plonger dans le passé du vieil homme.
Voilà, roman que nous chroniquerons, je vous l'annonce, ma chère Carole Declercq. Ce sera notre première chronique de À vous de lire à la rentrée. Voilà, cela est dit. Vous-même, vous êtes venue à la littérature, à l'écriture, un petit peu par votre grand-mère encore et votre mère?
Tout à fait. Alors ma mère et ma grand-mère lisaient énormément. Je pense que je vais vous amuser beaucoup de littérature sentimentale, c'est-à-dire Harlequin, Barbara Cartland, dont j'ai lu Barbara Cartland et j'aimais beaucoup. Je vous parle de cela, j'avais 6 ou 7 ans. Mais il se trouve que j'avais une grand-mère extrêmement dépensière et qui se laissait embobiner par tous les démarcheurs de France et de Navarre qui passaient devant sa porte.
Donc j'imagine que chez vous, il y avait toute la collection des Tout l'Univers.
Tout l'Univers, les provinces de France, France Loisir, évidemment, le fameux abonnement France Loisir, donc elle ne rendait pas le bon en temps et en heure,
donc on recevait la sélection. Livre, voilà.
Tout à fait. Et donc tout cela allait dans un coin, et qui lisait? La petite. La petite Carole. Donc je faisais le grand écart constant entre Barbara Cartland et la littérature un peu plus savante. Voilà. Donc j'avalais tout ce qui traînait.
Et entre-temps, votre maman et votre grand-mère sont mises à une littérature un peu moins sentimentale, m'avez-vous dit?
Oui, c'est vrai que maman maintenant a des goûts plus éclectiques, lit beaucoup, on se donne des conseils l'une l'autre, et c'est surtout ma première lectrice.
Alors s'agissant de conseils, vous auriez un conseil pour cet été à part votre livre, Carole de Clair?
Je ne vais pas être originale, je vais rester dans la Seconde Guerre mondiale. J'ai beaucoup aimé, il est très agréable à lire, le Zazou de Gérard de Cortance aux éditions Albin Michel.
Voilà, Zazou de Gérard de Cortance aux éditions Albin Michel. Vous ne bougez pas, on va vous poser une question, c'est une amie qui va vous poser une question. Ce sera juste après Florent Pagny sur France Bleu Isère.
Jusqu'à 14h, les portraits de l'Isère.
Papelo de ceniza, como un cuento del abuelo, descubrí bajo el sombrero una tarde su sonrisa. A nadie se parecía, al menos en la mirada, jovencita de mil ganas y otras miles lo vivirás. Y nos fuimos caminando entre risas y alborotos. Y a su lado fui soñando entre sorpresas y rotos. Habana, que espera, sentada en el balcón, a que suba la marea. Habana, tranquila, bañándose en el mar, la luna siempre te. Cosas de buenos y de villanos, pero al hablarte con las manos se te enredan las razones y luego la mente flota. Dicen que tiene un amante, pero prefiere estar sola. Tiene una luz que enamora y un dolor en el semblante. Y volvimos caminando, bien borrachos de alegría, pero no sé todavía si ya fue o está pasando. Habana se enciende jugando a enamorar, jugando a ser diferente. Habana desnuda pasiones de un lugar.
Havana, Florent Pagny sur France Bleu Isère.
Les portraits de l'Isère, Michel Caron.
Et c'est le moment de la question à l'invité, Carole de Clair. Vous avez choisi une amie toute récente, hein, mais on n'a pas besoin de compter le nombre des années pour créer une amitié. Elle s'appelle Brigitte, elle est là au téléphone en direct sur France Bleu Isère. Bonjour Brigitte.
Bonjour Michel, bonjour ma Carole.
Bonjour ma Brigitte.
Oh, alors ma Brigitte, elle va poser sa question à ma Carole.
Et oui, parce que c'est un peu à Maximilien d'Andreden que je dois cette belle rencontre.
Alors,
il existe malgré tout.
Le héros, excusez-moi, je resitue Brigitte pour les gens qui prennent le train en marche. Maximilien, donc c'est le héros du roman De ce qui ne nous tue pas, de Carole de Clair. Vous pouvez y aller.
Voilà. Et tellement précisément raconté que je suis littéralement tombée amoureuse de...
Waouh, je comprends, il est pas mal aussi.
J'ai eu le bonheur, comme vous, de chroniquer le roman de Carole et de fil en aiguille, et ben, par le biais de mails, des réseaux sociaux, de plus en plus me rapprocher de Carole par rapport à un blog qu'on a créé avec 3 autres auteurs, un blog littéraire, et puis des mois d'échanges comme ça, uniquement, on va dire, virtuels, et puis un jour, la décision de dire, tiens, il y a l'opportunité d'une date, qui était le jour d'une signature à Paris de Carole, de ce roman, d'ailleurs, et de se dire, ben, pourquoi pas. Et là, je voudrais demander à Carole, par rapport à ce moment assez particulier, quel souvenir elle a de cet instant-là, de ce jour-là.
De cette première rencontre physique.
De cette première rencontre.
Alors, Carole.
Le passage en 3D, comme ouais.
Eh bien, je pense qu'il y a un mot qui convient bien, Brigitte, c'est évidence.
Oh.
Voilà, évidence. Tout ce qu'on a construit de façon un peu virtuelle, tous ces échanges ont abouti, en définitive, quand on a pu se serrer dans les bras l'une de l'autre, à un moment d'évidence. Pour moi, il était clair qu'une amitié, une véritable amitié, quelque chose de profond était né. Voilà, donc beaucoup d'émotions, forcément.
Ah oui, beaucoup d'émotions, et je ne sais pas si des personnes ont déjà vécu ça, parce que maintenant le virtuel participe énormément de nos vies, et quand on passe à cette phase-là, c'est juste énorme, et puis quand on pense, comme je le dis, ça peut être paraît fou, mais c'est bien ce Maximilien qui m'a présenté à Carole, parce que sans lui, et ben, de fil en aiguille, il y a comme ça des petites choses qui se mettent en place pour aboutir à une amitié magnifique. Une personne qui est Carole d'une sensibilité énorme.
Ah,
alors
oui.
Attention les chevilles, Carole, mais c'est une vraie...
Non, ça va, elles sont encore minces. Elles n'ont pas enflé.
Avec la chaleur, on verra.
Bon, en tout cas,
c'est une vraie vérité.
Un très beau témoignage et qui nous prouve que les livres peuvent avoir de grosses incidences sur nos vies. Donc, je ne peux que vous encourager à lire. En tout cas, merci beaucoup, Brigitte. Et puis, comme me le disait, vous serez sans doute une des premières lectrices de ce nouveau roman qui sort fin août, début septembre, que nous chroniquerons sur France Bleu Isère. Merci beaucoup Brigitte et
avec
à très bientôt.
Au revoir
Brigitte.
Au revoir.
Bisous.
Carole de Clair, merci beaucoup. On rappelle le titre de votre livre, Ce qui ne nous tue pas. C'est publié chez Terra Nova. Et puis, rendez-vous donc au mois d'août, fin août, début septembre, pour ce nouveau roman qui sort et dont on a déjà pas mal parlé. Merci infiniment pour ce moment partagé avec nous.
C'est moi, Michel. Au revoir.
Au revoir, Émilie.